Un texte qui nous amène évidemment bien loin de ce à quoi nous avons l'habitude, bien loin de notre société, notre civilisation. Voilà, c'est un texte de l'Ancien Testament. Mais nous avons l'habitude de lire ces textes et de les apprécier. Et je vous dirai pour quelles raisons j'ai choisi ce texte. Il s'agit du premier chapitre de Deux Rois, du deuxième livre des Rois. Alors, j'ai eu le privilège aussi d'assister à un culte en Espagne, pas loin de Madrid. Et alors, j'étais très amusé parce que bon, le pasteur prêchait de façon un petit peu différente à ce à quoi nous avons l'habitude ici. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai bien compris ? Il disait, ah, j'aime entendre les pages qui tournent. Qui savait les pages qui tournent ? C'est-à-dire qu'il voulait dire mais, qu'il aimait bien que les gens cherchent dans la Bible le texte qu'il était en train de lire. Alors, j'ai trouvé ça amusant, c'est vrai qu'on le disait autrefois, mais au fond, ce n'est pas si mal de regarder soi-même dans sa Bible. Alors maintenant, on a des téléphones et des applications. Vous vous souvenez que Matthieu nous avait dit, il y a un an, je crois, il avait demandé qu'on lève la main ceux qui avaient l'application Bible sur leur téléphone. Et il y avait pas mal de gens. Donc, vous avez le droit d'utiliser vos téléphones pour suivre dans la Bible la lecture dans le chapitre 1 de Deux Rois. Et en même temps, vous pouvez le mettre sur silencieux si vous avez oublié de le faire. Alors, je lis donc à partir du verset 1. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Akazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ou d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël que pour que vous alliez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Élie y alla. Alors, les messagers retournèrent auprès d'Akazia et leur demanda, « Pourquoi revenez-vous déjà ?» Ils lui répondirent, « Un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné, « Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, « Voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. » Akazia leur demanda, « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme habillé d'un vêtement poil de chameau noué d'une ceinture autour des reins. » Alors Akazia dit, « C'est Élie de Tishbé. » Aussitôt, il envoya vers Élie un officier avec une cinquantaine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie, qui se tenait sur le sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta cinquantaine. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel, consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Akazia envoya un autre officier accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Pardon. Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Akazia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia. « Homme de Dieu, je te prie, aie garde à ma vie et à celle de cette cinquantaine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les deux premiers chefs et leur cinquantaine, mais maintenant, aie garde à ma vie. » L'ange de l'Éternel dit alors à Élie, « Descends avec lui, ne crains rien de sa part. » Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël que l'on puisse consulter, eh bien tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Un texte évidemment impressionnant, un texte qui nous fait froid dans le dos. N'ayons pas peur de dire que ce texte nous choque à cause de ce châtiment de Dieu qui s'abat sur ces hommes de troupe qui en apparence n'y sont pour rien. Ce n'est pas par esprit polémique que j'ai choisi ce texte, mais à cause de ce cri du prophète Élie. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël que tu ailles consulter le Dieu d'Écron ? Parce que je crois que cette interpellation mérite que l'on s'y arrête, d'autant que nous allons reprendre nos activités professionnelles pour certains, d'autant que nous allons reprendre nos activités d'église pour tous. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël ? N'y a-t-il pas de Dieu dans ce monde ? N'y a-t-il pas de Dieu en France ? N'y a-t-il pas de Dieu à Melun ? Voilà la question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Alors, l'histoire. Deux hommes sont en présence. Deux hommes entrent en conflit. Le roi d'Israël, Akasia, et le prophète Élie. Akasia est le fils du roi Akab. Ce roi est bien connu par un certain nombre d'histoires que nous connaissons, comme le meurtre de Naboth pour lui voler sa vigne, comme les guerres menées contre la Syrie. Akab est connu aussi par son épouse, la fameuse Jézabel, une étrangère qui l'a entraînée à l'idolâtrie, si bien que la Bible dit de ce roi, du roi Akab, qu'il fit encore plus pour contrarier le Seigneur que tous ses prédécesseurs. Et pourtant, Akab, à la fin de sa vie, se repent suite à la dénonciation par le prophète du meurtre de Naboth. « As-tu vu, dit Dieu, comme le roi Akab s'est repenti ? Eh bien, le malheur n'arrivera pas pendant sa vie. » Akab ensuite meurt au combat, et le livre des rois se termine, le premier livre des rois se termine par la montée sur le trône de Akasia, celui dont on parle aujourd'hui. C'est le fils d'Akab. Son règne ne va durer que 2 ans, et il est dit qu'il va, comme son père, se détourner de Dieu et adorer les dieux étrangers. L'autre protagoniste, c'est Élie. Alors Élie, évidemment, prophète majeur de la Bible, c'est celui qui apparaît avec Moïse dans la transfiguration de Jésus devant 3 disciples présents sur la montagne. C'est celui qui intervient pour annoncer les 3 ans de famine au roi Akab, 3 ans qui se terminent par la confrontation dramatique entre Élie et les prophètes de Baal, prophètes qui seront exterminés après qu'Élie ait convaincu le peuple de la supériorité de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Élie, c'est celui qui est toujours dans les pattes d'Akab pour contrarier ses projets et pour condamner ses agissements. Alors, l'histoire. Le texte nous rapporte ici qu'Akasia se blesse. Il craint pour sa vie. Il veut savoir ce qui va lui arriver. Il envoie alors des messagers pour consulter cette divinité locale appelée Baal-Zébub. Alors, quand on regarde les commentaires, on s'aperçoit que Baal-Zébub est une déformation de Baal-Zéboul. Baal-Zéboul, c'était Baal, le prince. Voilà. Et Zébub, c'est la mouche. Donc, c'est une façon ironique de parler de Baal. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi que ce Baal-Zébul est repris par Jésus dans le mot Belzéboul ou Belzébul, voilà, qui désigne en fait le prince des démons dans Matthieu 10. Alors, il semble que Akasia ait tout naturellement fait appel à ce dieu étranger et pas du tout à l'Éternel. Il est très loin de, visiblement, d'être préoccupé par le culte au seul vrai Dieu. Alors, que dit le texte ? Le messager du Seigneur dit alors à Élie, « Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. » Le roi envoie des messagers à Baal Zébub. Dieu envoie un messager à Élie. C'est la valse des messagers. Et Élie va intercepter les premiers. Il va intercepter les messagers du roi. Il est chargé de leur dire qu'ils ne vont pas à la bonne adresse. Ils ne s'adressent pas à la bonne personne. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël ? Ah, c'est une période de lutte contre l'idolâtrie dans le royaume du Nord, le royaume de Samarie, dont la capitale est Samarie. L'enjeu est de taille. Les rois donnent le mauvais exemple au peuple, comme on l'a dit pour Akab. Au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël, ils se tournent vers les dieux des nations environnantes. Ils sont sous influence, ils sont loin de Jérusalem, ils sont loin de ceux qui sont les intermédiaires naturels que Dieu a donnés entre lui et le peuple, les sacrificateurs, les lévites. Alors voilà, ceux qui interviennent pour dire quel est le vrai, quel est le bien, qu'est-ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce sont ces prophètes. Le prophète Élie, ensuite le prophète Élisée, et d'autres, bien sûr, qui sont mentionnés à plusieurs endroits. Ce sont eux qui doivent dire la parole de Dieu, qui doivent rappeler les fondements historiques et spirituels du peuple. Il revient aux prophètes de s'opposer au laisser-aller spirituel, moral et social. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël ? La condamnation vient tout de suite. Toi qui es roi, tu montres le mauvais exemple en abandonnant le seul vrai Dieu. Tu vas mourir. Mais Akazia ne va pas se laisser faire. Et la confrontation s'organise. Qui est cet homme ? Dit-il au messager. Qui est cet homme qui se permet d'intercepter mes messagers et de me prédire cette issue fatale ? La description de l'homme ne fait pas de doute. Il est couvert d'un vêtement en poil et il a une ceinture autour des reins. Et Akazia le reconnaît tout de suite. C'est Élie de Tishbé ou Élie le Tishbite. Il habite à Tishbé, il vient de là. Il le connaît, il l'a déjà vu à l'œuvre du temps de son père. Alors comme je l'ai dit, Akab avait peu à peu mis de l'eau dans son vin, il avait su se repentir. Mais l'expérience du père ne sert pas au fils. Il pense peut-être pouvoir faire taire, lui, une bonne fois pour toutes, cet empêcheur de tourner en rond, ce prophète de malheur. Mon père a été trop faible, je vais prendre les choses en main. Mais d'abord, vous le faites venir pour le réduire au silence, ou au moins pour essayer de l'amadouer, tenter de le mettre de mon côté. Et ce faisant, Akazia commet une double faute. Non seulement il s'adresse au mauvais Dieu, mais en plus, il va l'affronter directement. Et de nombreux innocents, comme on l'a vu, vont y trouver la mort. Deux escouades de soldats sont anéanties par un feu de Dieu. Heureusement, le troisième chef a compris la leçon. Comme souvent, le bon sens finit par l'emporter. Celui-ci mesure la folie de s'opposer au seul vrai Dieu. Et il commence par supplier Élie de préserver sa vie et celle de ses hommes. Et l'histoire se termine par la confirmation de la condamnation d'Akazia. C'est le Dieu d'Israël qui a le dernier mot, et son frère monte alors sur le trône. Je voudrais à présent tirer deux leçons de ce texte, et puis une application. La première leçon est évidente. C'est ce que le texte affirme avec force. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est aussi pour nous le Dieu de Jésus-Christ. Ce récit fait partie de ceux dans lesquels le Dieu de la Bible s'affirme comme le seul vrai Dieu. Il est le seul à connaître l'avenir. C'est lui qui prédit. Ce n'est pas un Dieu étranger. Ce n'est pas une idole. C'est le seul qui maîtrise les situations. L'incapacité des autres dieux est dénoncée de façon magistrale. Oui, il y a un Dieu en Israël. Mais ce Dieu ne nous ressemble pas. Ce Dieu n'est pas fait à notre image. Et il nous dérange. C'est un Dieu exclusif, un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un autre, un Dieu qui aime les hommes, ses créatures, mais un Dieu qui châtie celui qui lui résiste, un Dieu qui est sensible au malheur de ce monde, mais un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et face à l'idéologie dominante qui affirme que tout se vaut, que toutes les religions se valent, qu'il n'y a pas de vérité, nous avons à affirmer qu'il y a un seul Dieu. Face au relativisme généralisé qui dit qu'on peut s'adresser à Bouddha ou Mohammed, on peut croire en Dieu ou ne pas y croire, ce texte nous redit que tout cela est faux. Seul le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seul le Dieu de Jésus-Christ est Dieu. C'est un message difficile à annoncer à nos contemporains, mais un message salutaire. N'allez pas vous perdre dans des philosophies matérialistes. Ne cédez pas à l'attrait des religions orientales, des spiritualités orientales. Ne vous laissez pas aveugler par l'apparente simplicité de l'islam. Mais au fond, cette révolte que nous avons en nous-mêmes, cette révolte que beaucoup de nos contemporains ont par rapport à l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'une révélation, qu'il n'y a qu'un chemin, c'est certainement notre prétention à décider par nous-mêmes de ce qui est vrai. Au fond, nous et notre société revendiquent depuis longtemps la liberté de décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est faux. Mais Dieu ne peut pas être comme ça. Il ne peut pas tuer 102 innocents en faisant descendre le feu. Ce n'est pas possible. Dieu est amour. Comment aurait-il pu détruire ces deux troupes de soldats? C'est un vrai problème. Comment Dieu peut-il accepter que des chrétiens égyptiens soient tués parce qu'ils ne se convertissent pas à l'islam, que d'autres soient mitraillés dans la capitale de Bagdad. Et évidemment, vous connaissez toutes ces histoires atroces dans lesquelles les chrétiens sont maltraités, assassinés. Elie Wiesel se posait la question. Où était Dieu pendant l'Holocauste ? Demandait-il. Puis il précise, « Si je me suis élevé contre la justice de Dieu, je ne l'ai jamais renié. Ma colère s'est toujours élevée à l'intérieur de ma foi, » dit Elie Wiesel. Oui, Dieu ne nous ressemble pas à bien des égards. Oui, nous ne pouvons pas le comprendre totalement. Mais est-ce que c'est à nous de décider de la façon dont Dieu doit être ? De ce qu'est Dieu et de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Non, Dieu n'est pas à notre image. C'est nous qui sommes à son image. Il nous a créés à son image. Dieu ne nous ressemble pas. Dieu est Dieu. Alors, deuxième leçon. Au fond, qu'est-ce qui nous choque aussi dans cette histoire ? N'est-ce pas qu'au fond, ce sont des personnes qui n'y sont pour rien, enfin, ce sont des soldats quand même, donc voilà, ils sont chargés d'exécuter les ordres, et ma foi, ils prennent des risques, forcément, ils sont employés pour ça. Mais est-ce qu'on n'est pas choqué, d'autant plus que nous avons du mal à accepter l'idée que nos décisions peuvent avoir des conséquences sur d'autres ? Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, on va dire, dans l'air du temps. Nos décisions peuvent avoir une influence sur les autres. Oui, c'est un peu désagréable de le savoir, de s'en rendre compte, et puis on veut l'éviter, hein, on est très individualiste. Ah oui, mais moi je fais ça, mais les autres ils font ce qu'ils veulent. C'est pas tout à fait ça, hein. Dans le cas d'Acasia, de ce roi-là, ben, c'est lui le responsable des morts. Hein. Il envoie deux escouades de soldats au casse-pipe, hein, et même une troisième d'ailleurs. Hein. C'est lui qui donne l'ordre. Dans les guerres menées par les hommes, combien de morts ont été causées par des erreurs de commandement ? Combien de morts à cause de la vanité ou de l'aveuglement d'un tel chef militaire ? Avec ce texte-là, on est dans le même registre. Hein. C'est le commandant qui ordonne et puis c'est les soldats qui trinquent. Hein. Avec notre texte, on est dans cette problématique. Il est bon sans doute pour nous de rappeler que nos décisions, on n'est pas roi, hein, bon d'accord, on n'est pas responsable militaire, certes, mais nos décisions peuvent avoir des conséquences sur ceux qui nous entourent, sur nos proches. Bon, c'est évident pour les parents vis-à-vis des enfants, hein, bien sûr, nous les élevons. La décision de déménager dans telle ou telle ville, de les inscrire à telle école, de les amener régulièrement à une instruction chrétienne, à l'école du dimanche, au flambeau, ou bien de le faire une fois de temps en temps, c'est une influence que nous exerçons sur nos enfants. Par notre exemple, nous pouvons encourager les autres à faire le bien ou les entraîner à faire le mal, bien sûr. Et au fond, il y a souvent un cercle, on appelle ça maintenant un cercle vertueux. Oui, voilà, si quelqu'un fait le bien, les autres ont envie de faire le bien. Ce serait bien que ça se passe toujours comme ça, mais ça a certainement une influence. Ceux qui font le mal, ça entraîne le mal plus tôt. Hein ? Donc la Bible nous rend attentifs à avoir une attitude qui rend gloire à Dieu et qui l'honore. Elle nous exhorte à être des modèles, quelle que soit notre position dans la famille, dans notre vie sociale, notre vie professionnelle, dans l'Église, elle nous exhorte à être des modèles. Alors pour finir, je voudrais réfléchir un petit peu au rôle des prophètes comme Élie, en me posant la question que vous êtes certainement déjà posée, ben, est-ce qu'il existe encore des prophètes comme Élie, comme Élisée ? Et au fond, de nos jours, qui est-ce qui joue le rôle de porter la parole de Dieu comme ils ont su le faire de façon si extraordinaire. Alors, je ne ferai qu'ouvrir cette réflexion-là. Je ne prétends pas, évidemment, l'épuiser. Il y a des tas de livres qui ont dû être écrits sur le sujet. Les prophètes de l'Ancien Testament sont des porte-paroles de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, ils interviennent pour dire ce qui est bon et ce qui est juste. Ils interviennent non seulement dans la vie spirituelle, dans la vie liturgique, on pourrait dire, mais ils interviennent aussi dans la vie politique, sociale du peuple de Dieu. Ils dénoncent la corruption, l'exploitation du faible par le fort. Ils rappellent la morale et la loi de Dieu. Avant de quitter ce monde, Jésus envoie ses disciples. En leur demandant de faire de toutes les nations des disciples, et de leur transmettre son enseignement. C'est notre mission à nous, les chrétiens, de rappeler à nos contemporains qu'il y a un Dieu dans le monde. Oui, il y a un Dieu dans ce monde. Face à l'indifférence, au milieu de nos amis, de nos collègues de travail qui veulent se passer de Dieu, nous devons affirmer qu'il y a un Dieu dans cet univers et que ce Dieu s'intéresse à eux. Qu'il est essentiel pour eux de le chercher maintenant, pendant qu'il est encore temps, comme dit la parole. À certains égards, nous sommes des petits prophètes. Bon, nous devons porter cette parole de Dieu, toute proportion gardée. Mais je me demande si ce rôle de prophète, de prophétie, n'est pas joué davantage de nos jours par l'Église. L'Église dans son ensemble. L'Église qui, comme dit Paul dans 1 Timothée, alors ça dépend des traductions, mais est une colonne qui proclame la vérité. L'Église a quelque chose à dire au monde, évidemment. Premièrement, l'Église a raison de prendre position dans des débats de société. Alors justement, ces derniers temps, on a quelques exemples de ces prises de position. Elle a raison de dénoncer les peurs qui agitent la société, les peurs qui nous font faire des amalgames. Elle a raison de dénoncer la corruption. Elle a raison de dénoncer, je cite, « le silence des élites devant les déviances des mœurs et la législation de ces déviances ». Je ne sais pas si ça vous a... Hein, voilà, si vous avez remarqué ce discours du cardinal André XXIII. Après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, ça a fait jaser d'ailleurs ce discours. Comme il était à Notre-Dame, il était chez lui, il pouvait dire ce qu'il voulait, mais il avait tout l'aéropage du corps politique devant et ils ont dû être assez mal à l'aise. Enfin, certains ont dû être assez mal à l'aise sur leur chaise. Mais oui, mais il a raison. L'Église est là pour porter la parole dans des débats qui sont parfois compliqués, on est tout à fait d'accord, et dans l'Église, il n'y a pas toujours d'accord complet, mais il y a une parole à dire, à annoncer avec courage. C'est vrai que dans notre pays, ce sont essentiellement les catholiques qui prennent, ou disons, dont la parole est diffusée dans les médias. C'est la parole du pape, certainement, mais nous sommes souvent d'accord avec ces paroles-là. Dans notre union d'Église, l'union des Églises évangéliques libres, il y a aussi des prises de position, il y a aussi des communiqués de presse qui sont transmis, dans la Fédération protestante de France également, des communiqués de presse, et c'est bien, et c'est normal, que l'Église prenne la parole dans les débats de société. Deuxième point, et dernier, mais proclamer la vérité de Jésus-Christ, proclamer qu'il y a un Dieu dans le monde, proclamer Jésus, c'est surtout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'exercice du culte que nous faisons dimanche après dimanche, et ça peut être aussi plus fréquent d'ailleurs, nous proclamons le Christ. Face à la société, tout le monde ne nous voit pas, mais notre existence même et la proclamation que nous avons dans nos cultes de la grandeur de Dieu fait partie de ce message adressé à notre société. Nous le faisons de différentes manières, mais c'est bien la spécificité chrétienne de célébrer ce culte. Tout le monde peut prendre position et condamner tel ou tel agissement, telle ou telle crainte, telle ou telle peur, telle ou telle corruption. Les chrétiens, eux, en plus, célèbrent Dieu par le rassemblement en participant à ces cultes. Alors, c'est parfois lourd. Il faut trouver des gens qui chantent, qui animent la louange, des gens qui prêchent, des gens qui animent la première partie du culte, des gens qui sont au vidéoprojecteur. Il faut des gens pour l'école du dimanche, il faut des gens pour les flambeaux, il faut des gens pour faire le ménage, pour assurer l'entretien de ces bâtiments. Tout ça, ça fait partie du culte que nous rendons au Seigneur pour le rendre possible. Alors, continuons à célébrer notre Seigneur pendant toute l'année qui vient, de la meilleure façon pour lui rendre gloire. Comme Élie, il y a bien longtemps, osons le dire haut et fort, et de plusieurs façons. Oui, il y a un Dieu dans ce monde. Oui, ce Dieu ne nous ressemble pas. Il n'est pas à notre image, il n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Mais ce Dieu nous aime, et il nous jugera suivant la réponse que nous donnerons à la main tendue qu'il nous offre en Jésus-Christ. Amen.